Audiolib présente Tentation de Stéphanie Meyer. Lue par Maya Baran. Pour mon père, Stephen Morgan, personne n'a été encouragé ni aimé de façon aussi inconditionnelle que je l'ai été par toi. Moi aussi, je t'aime. Ces plaisirs violents ont des fins violentes. Dans leurs excès, ils meurent tels la poudre et le feu que leurs baisers consument. Roméo et Juliette, acte 2, scène 3. Prologue. On aurait dit que j'étais prise au piège d'un cauchemar terrifiant. Un de ceux où l'on est forcé de fuir, de courir jusqu'à ce que les poumons donnent l'impression d'exploser, sans que l'on réussisse pourtant à bouger assez vite. Mes jambes paraissaient s'engourdir au fur et à mesure que je me frayais un chemin parmi les badauds insoucieux, alors que les aiguilles de l'immense horloge, elles, ne ralentissaient pas leur course. Animées par une force implacable, elles tournaient, indifférentes, se rapprochant inexorablement de la fin de tout. Je n'étais pas en train de rêver cependant, et à la différence d'un mauvais songe, je ne cavalais pas pour sauver ma peau, mais quelque chose d'infiniment plus précieux. Ma propre survie ne pesait rien du tout à mes yeux ce jour-là. Selon Alice, nous avions l'une et l'autre de fortes chances de mourir. Si elle n'avait pas été piégée par le soleil éclatant, cela se serait sans doute terminé autrement. Malheureusement, j'étais la seule à pouvoir traverser cette place bondée et baignée d'une lumière accablante. Or, j'étais incapable d'avancer plus vite. Voilà pourquoi il m'importait peu que nous fussions cernés par des ennemis si extraordinairement dangereux. Lorsque la cloche se mit à sonner l'heure, déclenchant des vibrations sous la plante de mes pieds maladroits, je compris que j'arrivais trop tard et je fus soulagée qu'un destin sanglant attendît dans la coulisse. Car en échouant, je perdais tout désir d'exister. Un deuxième coup retentit, marquant le zénith exact du soleil. Chapitre 1. Une fête. J'étais sûre à 99,9% de rêver. Les raisons de ma certitude? Premièrement, je me tenais dans un rayon de soleil éclatant, le genre de lumière aveuglante que ne connaît pas ma ville d'adoption, l'humide Forks dans l'état de Washington. Deuxièmement, je regardais ma grand-mère, Marie. Vu que celle-ci était morte depuis 6 ans, l'irréalité de l'image était on ne peut plus tangible. Grand-mère n'avait guère changé, et son visage ressemblait à celui dont j'avais conservé le souvenir. La peau en était douce et flétrie, plissée en dizaines de fines rides sous lesquelles saillait l'ossature, comme un abricot sec surmonté d'une touffe vaporeuse de beaux cheveux blancs. Nos lèvres, les siennes étrécies par les ans, s'étirèrent sur le même demi-sourire surpris. Apparemment, elle non plus ne s'était pas attendue à me rencontrer. Je m'apprêtais à l'interroger. J'avais tant de questions à lui poser. Que fabriquait-elle dans mon rêve? Qu'avait-elle fait ces 6 dernières années? Grand-père allait-il bien? S'était-il retrouvé là où ils étaient à présent? Quand elle ouvrit la bouche, je me retins et la laissai parler. Nos traits prirent simultanément une expression un peu gênée. Bella. Ce n'était pas elle qui avait prononcé mon nom, et nous nous tournâmes pour dévisager le nouveau venu, bien que je n'eusse pas besoin de le voir pour deviner de qui il s'agissait. J'aurais reconnu cette voix n'importe où. J'aurais répondu à son appel, que je fusse éveillée, endormie ou morte, j'imagine. Pour elle, j'aurais marché sur des tisons ardents ou de façon moins théâtrale, j'aurais enduré chaque jour le froid et une pluie incessante. Édouard. Il avança vers nous dans la lumière étincelante et, malgré l'émotion consciente ou non que sa présence provoquait en moi, en dépit aussi de la quasi-certitude que j'avais de rêver, je paniquais. Après tout, grand-mère, à l'instar de tout le monde, ignorait que j'aimais un vampire. Comment allais-je